Monsieur Louis Delorimier est un homme qui a fait carrière dans le domaine de la diplomatie internationale. Il a eu plusieurs postes, évidemment, mais celui pour lequel nous avons un intérêt tout particulier, c'est qu'il a été ambassadeur du Canada au Liban de 2005 à 2008. Et aujourd'hui, dans la presse, il écrit un papier dans lequel il analyse et donne un regard sur cette situation. Bonjour, Monsieur Delorimier.
Bonjour, Monsieur Mongrain.
Dites-moi, Monsieur Delorimier, avant que d'aller dans le sujet particulièrement, j'aimerais que vous, brièvement, vous me dites pourquoi on parle autant du Liban ici au Québec? Est-ce qu'on a une affiliation naturelle avec ce pays?
Oh, je pense qu'il y a plusieurs raisons. D'abord, c'est un pays, le Liban, c'est un pays de la francophonie, hein? Il faut noter ça. C'est un pays où, avec lequel on a eu une très forte immigration. Je pense qu'on peut compter dans les centaines de milliers d'immigrants libanais à travers le Canada, mais beaucoup, beaucoup au Québec. On les rencontre souvent à Montréal. Et ils sont un apport très culturel et économique extrêmement positif pour nous. Et donc, on a des affinités. On a des affinités au niveau du commerce. On a des affinités au niveau des grandes universités, dans le domaine culturel, etc.
Mm-hmm.
Et donc, ça explique un peu l'intérêt que, je pense, les Québécois portent aux Libanais.
Quand on est nommé ambassadeur du Canada au Liban, qu'est-ce qu'on découvre en mettant le pied en sol libanais?
Écoutez, j'ai envie de vous dire qu'on découvre un pays magnifique, extraordinaire sur la Méditerranée. On a souvent appelé ça la Suisse de l'Orient, mais on découvre aussi un pays d'une complexité inouïe. Et la raison pour laquelle c'est d'une complexité inouïe, c'est que c'est un pays qui a été créé en 1943 suite à la proposition française aux Nations Unies de l'époque, c'était la Société des Nations, comme patrie des chrétiens d'Orient. Des chrétiens d'Orient. À ce moment-là, les chrétiens étaient majoritaires, mais très rapidement, les musulmans ont rattrapé démographiquement les chrétiens. C'est devenu un pays multiconfessionnel. De là la complexité de fonctionnement politique de ce pays.
Est-ce que c'est un pays où prime justement non pas la laïcité, mais effectivement la concurrence presque historique séculaire entre ces différentes factions religieuses ou appartenances religieuses?
Absolument. La constitution libanaise prévoit littéralement un partage du pouvoir politique entre la communauté chrétienne et la communauté musulmane. Or, vous savez comme moi qu'il y a quelques décennies maintenant, la communauté musulmane s'est fissurée, si vous voulez, s'est fracturée entre les sunnites d'un côté puis les chiites de l'autre. Alors, mm-hmm. Vous avez un pays, le Liban se retrouve avec des chrétiens, des musulmans sunnites, des musulmans chiites et puis des druzes aussi, il ne faut pas oublier, c'est une petite communauté, mais quand même. Et la Constitution prévoit que le président doit être chrétien, maronite, le premier ministre doit être sunnite et le président de l'Assemblée nationale doit être chiite. Alors, vous imaginez la complexité de faire fonctionner tout ça dans un sens ou dans l'autre.
Alors, donc, il n'y a pas une vision laïque pour une cohésion sociale. Il y a donc des façons de contrôler le pouvoir ou d'organiser cela pour que l'un prenne le pas sur l'autre. C'est ces tensions-là qui sont le fil conducteur de ce que vit le Liban?
Oui, absolument. Puis ce qu'il faut comprendre, c'est que le Liban a ce que j'appellerais moi presque le malheur d'être un territoire qui a deux voisins extrêmement, je le dis dans mon texte, qui a deux voisins très, très, très compliqués, Israël d'un côté et puis la Syrie de l'autre. Et le Liban devient l'espèce de terrain
de conflit
entre ces deux-là. Bien sûr, il n'y a pas de grande amitié, vous le comprendrez, oui, entre Israël et la Syrie. Ça s'est complexifié davantage avec la crise en Syrie, et puis par extension, parce que c'est un peu des cercles concentriques, c'est un peu aussi le conflit entre l'Iran, qui est le leader mondial du chiisme, et l'Arabie Saoudite, qui est le leader mondial du sunnisme. Et puis, si vous élargissez le cercle, vous avez l'Occident, évidemment la France et les États-Unis. Et puis, il y a aussi la Russie qui se mêle de ça. Et c'est d'une extrême complexité.
Et quand on nous dit Hezbollah, qu'est-ce que c'est que le Hezbollah?
Bon, le Hezbollah, ce qu'il faut comprendre, la chose qu'il faut comprendre, c'est que le Liban a vécu, je fais un peu de contexte, le Liban a vécu une très, très grave crise de guerre civile de 75 à 90. À ce moment-là, c'était des milices, qu'elles soient chrétiennes, sunnites ou chiites, qui se sont affrontées. À ce moment-là, ça s'appelait pas Hezbollah, ça s'appelait Amal. Mais le Hezbollah s'est développé, lui, comme milice aussi, mais avec avec le but de confronter Israël, plutôt que simplement de participer à la guerre civile au Liban. Alors, quand la guerre civile s'est terminée, toutes les autres milices ont désarmé, sauf le Hezbollah. Parce que le Hezbollah disait, ben, il y a encore le problème sur la frontière avec Israël, nous, on garde nos armes. Ce qui fait que le Hezbollah de nos jours est une puissance militaire qui est supérieure à l'armée libanaise, tout simplement. Alors, vous voyez le déséquilibre que ça crée.
Et qui en a profité de ce pouvoir-là pour prendre la scène politique régulière?
Ben, c'est ça. C'est que le Hezbollah est aussi un parti politique. Mm-hmm. Et ils présentent des candidats, et ils ont des députés, et ils ont des ministres. Mais au-delà de tout ça, que voulez-vous, quand vous avez le monopole de la puissance militaire, vous imaginez, moi je sais, j'y étais en 2006, le Hezbollah a affronté Israël et a réussi à repousser les attaques d'Israël à cette époque-là. Vous imaginez la puissance du Hezbollah. Alors, à l'intérieur du pays, ça crée un déséquilibre énorme. Ouais.
Bon, arrivons à aujourd'hui où, on le dit, vous le dites dans votre texte, ils ont les genoux à terre. Le Liban est carrément au sol présentement. C'est incroyable ce qui leur arrive au point de vue, bon, la pandémie là comme ailleurs, bien sûr, mais c'est presque devenu secondaire. On parle d'une crise économique, d'une inflation galopante, c'est incroyable. Le chômage est énorme. Il n'y a pas d'avenir pour certains, disent-ils. Il faut changer les choses. La corruption s'est installée dans ces différentes factions-là, au gouvernement, etc. Qu'est-ce qu'il faut aujourd'hui pour régler cette affaire? Ils ne pourront jamais s'en sortir d'eux-mêmes.
Écoutez, c'est clair que la communauté internationale va devoir appuyer un processus très complexe de réformes politiques et administratives pour mener à une démocratie qui soit réelle et non pas une démocratie telle qu'elle existe en ce moment, qui est totalement dans les mains des grandes familles historiques. Je ne vais pas les nommer, mais enfin, il y a des grandes familles qui, durant la guerre civile, de toute façon...
ont profité de la situation.
On profitait de la situation, puis avait des milices, ils étaient armés. Maintenant, ils sont pas armés, mais ils contrôlent le pouvoir politique parce que c'est divisé entre les trois factions. Alors donc, la difficulté, elle est là. Ce que la rue libanaise, les manifestants demandent, c'est des autorités qui soient élues, mais sur une base indépendante, sur une base d'indépendance, que chacun soit indépendant. C'est un beau projet, ça va être extrêmement complexe. Il va falloir que l'ONU s'en mêle, il va falloir que le Canada s'en mêle, la France est déjà très impliquée. Il y a quelques signes intéressants, vous savez, avec l'explosion du 4 août, là,
oui.
Immédiatement, la communauté internationale a dit, OK, on va offrir
d'aide sans condition
humanitaire, oui. Mais on ne passera pas par les autorités.
Exact, alors, ça, c'est le message est clair. Là.
C'est la reconnaissance claire que c'est corrompu, c'est incompétent.
Le temps file rapidement. Je veux en arriver à des proposition que j'entends un peu dans les airs, dans les commentaires des gens que j'ai rencontrés. D'abord, est-ce qu'il faudrait que la Constitution soit changée, c'est-à-dire qu'elle ne soit plus en imposant des mouvements religieux comme pouvant être des dirigeants à certains niveaux et à d'autres, donc de laïciser la Constitution libanaise, est-ce illusoire?
Écoutez, je suis pas extrêmement compétent pour répondre à cette question, sinon que de dire que ça m'apparaît déjà extrêmement difficile, parce que la religion là-bas,
c'est
vraiment le fondement de l'existence même du pays, mais pas parler nécessairement de laïcité, mais certainement de modifications, de réformes qui permettent une plus grande indépendance des individus.
Deuxième chose, il est impossible que ça se fasse sans que le pays soit un genre de tutelle ou organisé par la communauté internationale.
Bon, écoutez, moi, je rêverais pas là, la tutelle. Écoutez, suite à cette explosion qui m'a paru tellement énorme, ça avait l'air d'une bombe nucléaire, vous avez vu, on a demandé qu'il y ait une enquête internationale, puis immédiatement, le président, qui soit dit en passant, est associé aussi à la faction du Hezbollah, immédiatement, et aussi Hassan Nasrallah, qui est à la tête du Hezbollah, on dit non, 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 pas d'international là-dedans. Avant qu'il y ait une tutelle internationale, je pense qu'il va faire beau, mais je pense que les Libanais, entre eux, peuvent au moins réussir à évoluer vers un système plus juste et à chasser les corrompus.
Merci beaucoup, M. Louis Delorimier, ex-ambassadeur au Liban, de nous avoir partagé votre expertise. Merci beaucoup.
Je vous en prie.
Au revoir.
Au revoir.